Bonjour et bienvenue dans l'Info s'éclaire. Un manifestant entre la vie et la mort après les heurts très violents samedi à Sainte-Soline. Demain, 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites et on redoute bien sûr de nouveaux débordements. L'Info s'éclaire est intitulé Emmanuel Macron au défi de la violence. Nos invités, Gilles Bornstein, vous êtes éditorialiste politique à France Info, Driss Aït Youssef, docteur en droit public, spécialiste des questions de sécurité, et Stéphane Zumsteeg, vous êtes directeur du département politique opinion d'Ipsos. Merci de participer à cette émission en direct. Donc on l'a dit, hein, c'est la sidération après le déchaînement de violence samedi à Sainte-Soline dans les Deux-Sèvres, entre les forces de l'ordre et une partie des opposants à ces grandes réserves d'eau. De nombreux blessés, un manifestant entre la vie et la mort, des véhicules de gendarmes incendiés. Retour sur cette journée avec Stéphanie Pérez, Thibaut Petit et Julien Delage.
C'est un document qui montre l'extrême violence des affrontements. Un gendarme filme de l'intérieur de son véhicule visé par les manifestants. Jets de pierre, de cocktails Molotov, d'engins explosifs. Il se réfugie sous le tableau de bord. De longues heures de guérilla. La façon dont le face-à-face a dégénéré a surpris la plupart des témoins, dont ce manifestant.
Je me suis fait canarder par les forces de l'ordre. J'ai pris une grenade de désencerclement dans l'œil. Et je suis complètement choqué, moi, de cet état de guerre.
Même longue minute de frayeur pour ce photographe. Réfugié derrière un véhicule de gendarmerie, il est touché au visage et aux mains.
L'ampleur de la violence engagée était... Inimaginable, quoi. C'est une pluie de pierres, de mortiers, d'artifices, de cocktails Molotov qui nous tombaient dessus, qu'on arrivait à peine à éviter en se plaquant contre les camions. Enfin, franchement, c'était très, très, très impressionnant.
Driss Aït Youssef, vous qui êtes un spécialiste de ces questions, vous confirmez que c'est très, très rare ce qu'on a vu samedi. Ça relève de quoi? Alors, Gérald Darmanin parle de l'extrême violence. Il cite des black blocs et de gens de l'ultra-gauche qui venaient parfois de l'étranger, comme si Sainte-Soline avait été un point de rassemblement de tous les Européens prêts à en découdre.
Oui, on sait qu'aujourd'hui, maintenant, il y a des convergences, effectivement, dans ces luttes, justement, pour le climat, etc., et que c'est quelque chose qui dépasse un peu les frontières. C'est la raison pour laquelle, d'un point de vue un peu politique d'abord, on voit qu'il y a un sujet qui est un sujet un peu local, avec une consultation locale et un projet très local, et avec des attentes qui sont des attentes un peu internationales sur le réchauffement climatique. C'est pour ça que ça fédère aujourd'hui des individus qui dépassent même le territoire national. Ensuite, c'est vrai que sur la violence, il y avait déjà une manifestation à Sainte-Soline en octobre 2022. On a eu des moments de tension, mais globalement assez bien contenus par les policiers et les gendarmes. Là, c'était complètement différent, avec 5 arrêtés préfectoraux qui interdisaient justement ces rassemblements, ces manifestations, et des gendarmes déployés pour protéger avec un périmètre de protection. Mais on a vu que, y compris avec des saisies, avec des contrôles de véhicules, des fouilles de personnes samedi, c'est plus de 6000 personnes qui ont été fouillées, 4000 véhicules qui ont été fouillés également, avec un arsenal, on parle de 62 couteaux, 67 boules de pétanque saisies, 7 mortiers d'artifice, 6 bidons d'essence, 13 parpaings, 13 haches et machettes, 5 matraques et battes de baseball, y compris avec cet arsenal saisi, on voit bien que la violence était encore présente, et donc ça pose évidemment des difficultés pour la puissance publique.
Ça veut dire qu'en fait, on est organisé, on vient la veille, on cache des armes. Et on les déterre le lendemain
ou... Bah oui, parce qu'aujourd'hui, lorsque vous êtes appréhendé en train de vous rendre sur une manifestation avec une arme, un couteau ou une arme
à
destination, évidemment, on vous arrête et vous êtes immédiatement placé à raison en garde à vue. C'est la raison pour laquelle, y compris dans les manifestations qu'on a à Paris, vous en avez qui viennent la veille et qui dissimulent leurs armes ou les armes par destination de sorte à pouvoir les récupérer le lendemain. Ça, c'est vrai que ça pose une vraie difficulté, mais bon, la liberté de manifestation, il faut évidemment la préserver. En l'occurrence là, il n'y avait pas d'autorisation à manifester, il y avait un périmètre de protection. Encore une fois, la préfète a rappelé qu'il ne pouvait pas y avoir de manifestation, et malgré ça, il y a eu des rassemblements de milliers de personnes, et dans ces milliers de personnes, des individus qui ne sont pas venus pour contester ce qui pourrait être légitime, mais qui sont venus pour s'en prendre aux policiers et aux gendarmes.
Gilles Bornstein, tout ça donne l'image quand même d'une France à feu et à sang, parce que ça fait suite aux images la semaine dernière de manifestations à Paris avec des poubelles qui brûlaient place de l'Opéra, la grande porte à Bordeaux de la mairie de Bordeaux enflammée. On se dit, la France est à feu et avec Emmanuel Macron, ce sont les gilets jaunes, des black blocs et des millions de gens dans la rue.
Je ne sais pas si la France est à feu et à sang parce que tout ça ne représente quand même pas énormément de monde. Oui, il y a des black blocs, oui, il y a des gens qui viennent de l'étranger pour en décompte, oui, il y a des manifestants certainement assez violents. Pour autant, combien tout cela représente parmi 66 millions d'habitants ? Je ne le sais pas. Ce qui est sûr, c'est qu'une conjonction...
On est exposé à ces images.
On est exposé. Et qu'il y ait des incidents, plus que des incidents, qu'il y ait des choses graves, c'est évident, c'est absolument incontestable. Peut-on dire que la France est à feu et à sang ? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que vous faisiez le parallèle entre les deux types de manifestations. C'est sûr qu'il y a eu un enchaînement de circonstances extrêmement défavorables pour le gouvernement. En fait, il se trouve que la dernière journée d'action ait eu lieu la veille ou l'avant-veille de cette manifestation prévue depuis longtemps, enfin de cette manifestation interdite, de ce rassemblement prévu depuis longtemps à Sainte-Soline, et que c'est sûr que ça donne une image de... à la fois de violence des manifestants des deux côtés et de violence des policiers des deux côtés, les deux se répondant l'un à l'autre. On est dans une sorte d'échelle de perroquet où la violence des uns, défendue maladroitement par certains, génère la violence des autres, là aussi défendue, et on commence à être dans un combat où chacun se renvoie la patate chaude, et que tout cela est déplorable, avec une espèce de binarisation de la société. C'est-à-dire que quand vous écoutez les radios, quand vous lisez les journaux, quand vous voyez ce qui se passe, vous avez une France qui a décidé que tous les policiers étaient une bande de sauvages.
Marine Tondelier a dénoncé les tirs de grenades vers des personnes blessées, prises en charge sur les sites de la manifestation.
Après, il faut objectiver les choses. Moi, je n'en sais rien. Peut-être que ça s'est passé. Après, la justice le dira. Ce n'est pas mon métier. Mais vous avez une France qui dénonce une police complètement hors limite et une autre France qui dénonce des manifestants qui ont soif de casser. Il y a certainement du vrai dans les deux, mais je trouve que la difficulté en ce moment est d'objectiver les choses.
Stéphane Zumstag, est-ce qu'on a une idée de comment peut réagir l'opinion face à ces images ? Est-ce que, à l'image de Marine Tondelier, elle en veut, elle prend le parti des manifestants qu'on a vus blessés ? Ou est-ce que non, il y a une soif d'ordre ? D'ailleurs, c'est le Figaro ce matin qui dit que le gouvernement a beau jeu maintenant de jouer la carte de l'ordre. Gérald Darmanin l'a prévu. Il n'y aura pas de ZAD d'un temps martial, a-t-il dit, à Sainte-Soline.
Dans un contexte classique, normal, on pourrait dire oui, que la majorité des Français va être choquée par ce qui se passe et dénoncera la chienlit et le gouvernement jouant la carte classique habituelle de ces dernières décennies du parti de l'ordre. Tout le monde s'y est essayé, parfois avec succès, parfois avec moins. Le problème, c'est que tout ça intervient dans un contexte très particulier, celui de la réforme des retraites, ouais. Celui d'une France totalement hostile à l'exécutif, celui d'une France qui finalement se dit que, en dépit de ce qu'elle pensait initialement, il est peut-être possible de faire reculer Emmanuel Macron sur ce projet de réforme. Et donc, Gilles le disait à l'instant, ce n'est pas une convergence des luttes, c'est une concomitance des luttes. Et à partir de ce moment-là, ça renvoie encore à un gouvernement qui ne comprend pas l'opinion, même si ce n'est pas l'opinion qui s'est exprimée à Sainte-Soline, évidemment, en général. Ça renvoie à l'idée d'une France profondément divisée, profondément irréconciliable, et surtout, et c'est le problème pour l'exécutif, d'une France qui n'est plus totalement gouvernée, ou en tout cas qui n'est plus totalement tenue, en tout cas sur le front de l'ordre. C'est ça le vrai problème pour le gouvernement et pour le président la République aujourd'hui.
Drissa Itoussef, est-ce que cette violence, d'ailleurs, qu'on constate chez certains des manifestants, elle fait écho à la violence aussi du débat politique ou à l'Assemblée nationale on sait que c'est monté d'un ton. Et même, Aurore Berger a dévoilé sur son compte Twitter les lettres de menaces qu'elle reçoit. Aurore Berger qui vient d'avoir un bébé de 4 mois. Regardez les lettres qu'elle reçoit. Il est si petit, ton rejeton, il ne pourra pas s'enfuir. Feu, batte de baseball, barre de fer. Elle a dit ça, trop c'est trop quoi. On s'en prend à son enfant. Ça aussi, ça fait écho à une dégradation des échanges dans l'espace politique.
Oui, des dégradations. On parlait de la dégradation dans les relations entre la police et la population. Là, on parle de dégradation dans la relation entre une partie de la population et les élus. On voit bien la permanence d'Éric Ciotti dégradée. Alors, on a toujours eu quelquefois des moments de tension entre les élus locaux et puis quelquefois un certain nombre de nos concitoyens. On dépasse là, c'est vrai, un cas, puisque on voit bien que, y compris à l'Assemblée nationale, on a quelquefois de la violence verbale, on a quelquefois des gestes qui sont des doigts d'honneur, on a quelquefois des gros mots, on a quelquefois des méchancetés qui sont ici et là. Et on a des propos. On a des propos sur la manière dont ce gouvernement mène sa politique. Quand on parle de, effectivement, un 49-3 qui serait antidémocratique, bah, ça donne d'une certaine manière un peu de résonance, ça donne un peu d'écho à ceux qui, depuis le début, notamment ceux qui constituent ces black blocs, ces anarchistes, et qui considèrent que ce gouvernement, ou en tout cas tout ça n'est pas très très légitime et qu'il faut revenir à une espèce d'état-nature. Et donc cette bordélisation que quelquefois on peut constater au sein de cet hémicycle, eh ben, on observe quelquefois un transfert sur la voie publique, et surtout quand on a des politiques qui, lorsqu'ils sont en manifestation, eh ben, d'une certaine manière, invectives ou considère que la police et la gendarmerie sont un outil répressif, est un outil répressif à la disposition d'un État un peu oppresseur qui protège les riches. Et bien ça contribue justement à générer de la violence.
Ce que vous voulez dire par là, c'est que l'État ou le gouvernement, en adoptant la stratégie du dos rond, au fond se repose sur la police pour être en première ligne face à une contestation avec un État qui jouerait un peu le pourrissement. Est-ce que les policiers se retrouvent en première ligne?
Mais bien sûr, aujourd'hui, c'est assez évident. On voit bien qu'on vit un peu une espèce de crise. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est pas le fonctionnement de la police et de la gendarmerie. C'est aujourd'hui la manière dont fonctionne d'une certaine manière un peu le gouvernement, qui cristallise d'une certaine manière un mécontentement, et en particulier chez les jeunes. Parce que il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, hier, à Sainte-Soline, et en tout cas ceux qui aujourd'hui provoquent les policiers, ces gendarmes, on a aussi affaire à un sujet qui est aussi générationnel. Et donc, le problème aujourd'hui, c'est que les policiers et les gendarmes sont les récipiendaires de ce mécontentement. Ils protègent nos institutions. Alors, plus ou moins bien fait, avec des contestations légitimes. Ici et là, on peut parler effectivement des comportements quelquefois déplacés des policiers et des gendarmes. Ça fait souvent l'objet de poursuites, mais quand on entend quelquefois des politiques, par exemple, j'écoutais Jean-Luc Mélenchon hier qui disait « Mais c'est pas possible, l'IGPN ne peut pas se faire justice à soi-même, c'est des collègues qui jugent. » Non, l'IGPN ne juge pas. L'IGPN, elle est là pour mener une enquête, elle instruit et elle propose au ministre de l'Intérieur une palette de sanctions en fonction de la gravité. Et par ailleurs, il faut aussi rappeler que le juge judiciaire peut être saisi lorsqu'il y a des manquements. D'ailleurs, le procureur de la République est saisi ici et là lorsqu'effectivement il y a des bavures de policiers ou de gendarmes. Et donc il est saisi et il prononce régulièrement des sanctions, et elles sont graves contre les policiers. Il y a encore même pas 15 jours, des policiers ont été sanctionnés, je crois, à l'est de la France, avec une interdiction d'exercer leurs fonctions parce qu'ils ont prononcé des propos racistes sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça, c'est bien la preuve que, effectivement, cette police, cette gendarmerie, elle n'est pas hors contrôle, elle n'est pas en roue libre, elle fait l'objet d'un contrôle extrêmement sévère.
Alors, vous, juste un mot, parce que vous parliez à l'instant de la rue qui conteste la légitimité des élus. Et c'est ce qui a tenu à rappeler samedi matin sur France Info Christophe Béchu, c'est le ministre de la Transition écologique. Il dit cette méga-bassine qui est tant contestée, elle a été approuvée par de nombreux élus de tous bords politiques, hein, y compris Delphine Bateau, qui est aujourd'hui dans la NUPES. Écoutez Christophe Béchu.
Le projet en l'état, ce n'est pas le projet du gouvernement, c'est le projet de 450 agriculteurs dans des coopératives soutenues par la région socialiste, par le département de droite, par y compris Madame Bateau à l'époque quand le protocole a été signé, avec des engagements à prélever moins.
Ancien ministre de l'écologie et aujourd'hui député des Deux-Sèvres.
Député NUPES.
Gilles Bornstein, il faut reconnaître que la violence permet de faire bouger les choses à Notre-Dame-des-Landes et aux Gilets jaunes.
Bien sûr, on a vu que jusqu'à présent, à chaque fois que la contestation était bien élevée, ça payait pas. Et quand la contestation a dépassé un certain nombre de limites, c'est vrai que ça a payé. On sait tous que les images de l'Arc de Triomphe au moment des Gilets jaunes, on sait tous que les manifestations violentes ont contribué à ce que le gouvernement recule sur la taxe carbone et ensuite accorde un certain nombre de milliards aux manifestants. C'est vrai, et on voit bien, et Laurent Berger devra certainement s'en expliquer, que la contestation de la réforme des retraites, cette intersyndicale dont on a si souvent vanté à la fois l'unité, le sérieux, la respectabilité, le fait que pendant tous les premiers samedis, on pouvait manifester en famille tranquille, bien pour l'instant, ils ont obtenu quoi ? Zéro. Donc c'est sûr que ça pose des questions, c'est terrible, c'est un constat absolument terrible.
21% des Français estiment qu'Emmanuel Macron finira par abandonner la réforme des retraites. Est-ce qu'après ces images, ce camp grossit ? Est-ce que ce sont des questions qu'on ne se posait pas il y a une semaine ? Et si le gouvernement finissait par reculer ?
En tout cas, Stéphane l'a dit il y a un instant, c'est vrai que cette idée que finalement le gouvernement pourrait reculer, comment je parle sous son contrôle, elle est pas majoritaire à ma connaissance, mais elle commence, cette idée commence un petit peu à monter. Mais c'est vrai, on l'a vu dans les quelques dernières années, les seules revendications, les seuls conflits où les contestataires ont eu en partie raison, c'est ceux où il y a eu de la violence. La réforme de la SNCF, par exemple, le gouvernement n'a pas reculé d'un iota. Donc, ça pose un problème. Je voudrais rajouter un mot à ce qu'a dit tout à l'heure Driss. A dit, c'est pas le fonctionnement de la police et de la gendarmerie qui est en question. Quand même un peu. On peut continuer à se dire que tout va très bien, qu'il y a une IGPN qui effectivement ne juge pas et instruit. Enfin, il y a quand même, en tout cas, il y a un problème. Quand on a tous lu le papier du Monde qui fait état de ce qu'a dit la Brave, moi, je ne sais pas, je suis pas un spécialiste de ça, mais on se dit qu'il y a le Conseil de l'Europe nous a critiqué aujourd'hui. On se bat toujours de savoir est-ce qu'il y a des violences policières ou pas. Il y a une sorte d'enjeu autour de ce terme. En tout cas, il y a des problèmes.
Je vous propose justement qu'on écoute, puisqu'il y a une enquête qui a été ouverte de l'IGPN contre les Braves M suite à un enregistrement audio de 23 minutes qui jette quand même une lumière crue sur le langage et les méthodes de certains policiers de ce groupe d'intervention, donc qui sont, c'est une brigade motorisée de répression contre les actions violentes. Regardez ce sujet de Nathalie Pérez, Isabelle Dupont et Gaëlle Daringos.
Leurs interventions parfois musclées sont au cœur du dispositif chargé d'encadrer les manifestations contre la réforme des retraites. Lundi soir à Paris, c'est lors d'une interpellation que la Brave M place 7 jeunes gens en garde à vue. L'un des manifestants va discrètement enregistrer les conversations. Une bande sonore de 23 minutes, diffusée sur le site d'information Loopsider. Les paroles des fonctionnaires de la Brave sont accablantes. Menaces, racisme, intimidation.
Je peux te dire qu'on en a cassé des coups, des gueules, des gueules. Mais toi, je t'aurais bien pété les jambes.
Mais t'inquiète pas que la prochaine fois qu'on vient, tu monteras pas dans le car pour aller au commissariat. Tu vas monter dans un autre truc qu'on appelle ambulance pour aller à l'hôpital. Mais...
Sur ce document audio... On entend également ce qui semble être des gifles.
Efface ton sourire. Tu commences à bégayer, t'en veux peut-être une, non ? Pour te remettre la mâchoire droite.
Nous avons retrouvé le jeune manifestant qui dit avoir été giflé par les policiers de la Brave ce soir-là. Il est tchadien et malgré son titre de séjour en règle, il raconte avoir été violenté et menacé d'expulsion.
Donc ils ont commencé à dire « Oui, t'es venu comment en France ? T'es venu par bateau ? T'es venu à l'avion ? Tu t'es accroché sur les ailes de l'avion ?» C'est toutes ces insultes et des humiliations.
Ces deux dernières semaines, 12 plaintes pour violence ont été déposées par des manifestants auprès de l'IGPN, la police des polices.
Alors, Gilles Bornstein, c'est vrai que ces braves M qui sont motorisés, ça fait écho au fameux voltigeur qui avait été à l'origine de la mort de Malik Oussekine en 86. Hier, Jean-Luc Mélenchon dit qu'il faut qu'ils aillent se faire soigner, ces gens à moto, parce que, dit-il, ils sont volontaires pour monter sur une moto... Pour taper des gens avec une matraque, c'est manifester un état d'esprit, dit-il, qui ne me convient pas et que je trouve anormal.
Il y a de l'excès, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils aillent se faire soigner, c'est de l'excès. Un responsable politique ne doit pas parler comme ça. Maintenant que ces images révèlent un problème au sein de la Brave, c'est absolument évident. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si ça vient d'un problème de formation, parce qu'on n'a pas tout entendu. Il y a aussi des menaces sexuelles, si je puis dire, dans ce qu'ont proféré les gendarmes. Il y a...
Certains,
parmi ceux-là. Il y a, à l'évidence, un problème dans le maintien de l'ordre en France. Il y a, à l'évidence, des policiers qui ne savent pas se tenir. Je dis évidemment pas que c'est tous les policiers, mais il va falloir, encore une fois, objectiver tout ça et que, là, aujourd'hui, j'entendais les ministres dire, j'ai entendu à nouveau Christophe Béchu dire, ce que je trouve scandaleux, c'est qu'on ne condamne pas les attaques contre des policiers. Évidemment qu'il faut condamner les attaques contre les policiers. Mmh. Évidemment que c'est scandaleux. Mmh. Mais tant qu'on restera dans une sorte de binarité où il y a des bons manifestants d'un côté et des mauvais flics de l'autre, ou l'inverse pour les autres, on n'en sortira pas. Voilà, Driss parlait de ce qui s'est passé dans l'Est de la France il n'y a pas longtemps. Il y a quand même des gens d'une BAC à l'intérieur qui avaient fait, au sein du commissariat, un groupe qui était de mémoire... Ni boule, ni meuf, ni bougnoule. C'est-à-dire, c'est des policiers qui, au sein du commissariat, avaient décidé qu'ils ne bosseraient pas avec aucun maghrébin et avec aucune femme. C'est juste pas possible.
Alors, Driss Aitouseff, est-ce qu'il y a une culture borderline au sein de la police ou est-ce que cette violence qui peut s'exprimer... Non, je dis ça parce que c'est le Conseil de l'Europe qui s'alarme d'un usage excessif de la force en France. Est-ce qu'on pourrait parler d'une violence de police, mais alors qui ferait écho à une violence aussi de certains manifestants qu'on ne voit pas dans d'autres démocraties occidentales. Oui. Est-ce que l'un répond à l'autre, quoi. Oui.
Alors, la première, pour répondre à Gilles, en fait, moi, ce que je dis, c'est que dans le débat démocratique, quelquefois, on a tendance, pour effectivement éclipser les carences politiques, de dire « mais voilà, il y a de la violence chez les policiers et gendarmes ». Oui, il y en a, je vais y revenir. Mais effectivement, dans ce que j'ai dit que aujourd'hui, le débat, c'est effectivement la manière dont ces réformes sont menées qui pose une vraie difficulté d'ordre sociétal. Après, effectivement, s'agissant de la police, oui, il y a des méthodes. On l'a beaucoup évoqué, d'ailleurs, sur les plateaux, sur l'état de la police. Hein, pas parce qu'on a des réformes que la police va mieux. C'est pas parce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a voté une LOPMI à 15 milliards que la police, par enchantement, elle ira mieux demain. Non, il y a des problèmes au sein de la police. Ces problèmes, ils sont structurels. Ce sont des jeunes, quelquefois pas suffisamment formés, pas suffisamment encadré. On l'a rappelé à plusieurs reprises. Et donc, ces problèmes, aujourd'hui, persistent. Vous avez effectivement du racisme dans la police. Est-ce que ce sont tous les policiers ? La réponse est non. Vous avez des violences quand on parle effectivement de la Brave M. La Brave M, c'est quoi ? C'est effectivement ces brigades, la répression de
l'action violente
qui ont été créées au premier semestre 2019, justement en écho à la violence en marge du mouvement des Gilets jaunes. Pourquoi ? Bah parce que les CRS et les gendarmes mobiles avaient du mal à se déplacer et qu'il fallait une force beaucoup plus rapide pour aller interpeller ces groupes de casseurs disséminés un petit peu partout dans Paris. Donc les policiers qui sont derrière, parce que vous avez les conducteurs et les policiers qui sont derrière, ce sont des policiers de la compagnie d'intervention de la DOPC, qui sont formés au maintien de l'ordre. Ils sont, eux, positionnés. Ces braves M, lorsqu'il y a des manifestations, on a des fixations de points de tension. À aucun moment, contrairement à ce qui est dit, ils n'ont le droit ni d'interpeller, ni de frapper lorsqu'ils sont sur la moto. C'est absolument strict.
Contrairement aux voltigeurs de Charles Pasqua.
Contrairement aux voltigeurs qui, avec la matraque, pouvaient passer, ouais, etc., et courser les manifestants. Ce n'était pas du tout le sujet, c'est même strictement interdit. En revanche, qu'il y ait au sein de la brave M des comportements qui ne sont pas des comportements adaptés, qui sont évidemment blâmables ou condamnables, ça c'est certain, comme partout dans la police. Ça, d'accord, c'est évident. Donc il faut pouvoir les condamner.
Comme mais, partout ailleurs.
Mais absolument. Mais les condamner, ça ne règle pas le problème. Il faut aussi mettre en œuvre une vraie réforme au sein de la police, d'accord, nationale. Et on en a régulièrement parlé ici. Ce qui est fait aujourd'hui ne convient pas. Et je pense qu'il faut aller encore plus loin.
Alors, c'est symptomatique. Ça fait 20 minutes que nous avons commencé cette émission. Nous n'avons pas encore parlé des retraites. Et c'est exactement la crainte de Laurent Berger. Hier, demain, il y a la 10e journée de manifestation contre cette réforme des retraites. Qu'a dit ce matin Laurent Berger au 4V ? Il dit bah, « cette violence, elle éclipse le combat contre la réforme. On l'écoute ».
Ce qui me préoccupe aussi, c'est qu'en fait, on noie la contestation sociale dans ce qui malheureusement existe et qui est des actions violentes de quelques-uns en fin de manifestation, en dehors des manifestations, etc.
Qui noie ?
Que cela noie, ouais, pas forcément quelqu'un qui le fait de façon délibérée. C'est pas, moi, je ne suis pas du tout dans ce type d'approche. C'est que cela noie une vraie contestation sociale.
Stéphane Zumsteig, de fait, on est un peu passé à autre chose.
On est passé à autre chose pour quelque temps. Demain, il y a une nouvelle mobilisation, une nouvelle journée de mobilisation.
Et oui, mais on va scruter les violences et pas le nombre de manifestants. Oui. On l'a vu jeudi dernier.
C'est vrai. Après, Laurent Berger a totalement raison dans ce qu'il dit. Et d'ailleurs, il est très mesuré aussi, nuancé dans ses propos. Il n'est pas en train de sous-entendre qu'il y aurait une instrumentalisation faite par le gouvernement de ce qui s'est passé à Sainte-Soline. Ceci dit, même s'il n'y a pas forcément d'instrumentalisation, je pense qu'il y a un certain cynisme de la part du gouvernement, malgré tout, qui saute sur cette occasion pour faire un petit peu, mais je le répète, temporairement, oublier la réforme des retraites en jouant le parti de l'ordre. Demain, il y aura une journée de mobilisation, il y aura peut-être sûrement des violences en fin de cortège, peut-être, mais je ne pense pas que les Français sont passés à autre chose. C'est plus Sainte-Soline qui est un épiphénomène et la réforme et la succession des journées de mobilisation qui reviendra au cœur de l'actualité, avec toujours le même contexte, et vous l'évoquiez tout à l'heure avec ces 21%, une part de plus en plus importante de la population, qui reste minoritaire pour l'instant, qui se dit qu'en dépit de ce qui pouvait être dit auparavant, il y a peut-être maintenant une petite chance, cette fenêtre d'opportunité pour qu'à un moment donné, si le mouvement dure, s'amplifie, je parle du mouvement social, hein, pas des débordements ou de la casse, eh bien peut-être qu'à un moment donné, il est possible de contraindre le gouvernement à retirer tout ou partie de son projet.
Gilles Borstein, comment vous la voyez-vous, cette 10e journée demain ? Est-ce que à nouveau, là, ça pourrait à nouveau s'effilocher ou bien non, cette petite flamme qui fait espérer un recul du gouvernement pourrait remobiliser ?
Ce que dit Stéphane est vraiment édifiant parce que théoriquement, on a l'habitude de dire que il y a de la contestation. Puis à partir du moment où le projet est adopté par l'Assemblée, quelles que soient les conditions, eh bien, voilà, la loi dure à l'excès de l'ex. La loi est dure et c'est la loi. Et beaucoup de gens ont tendance à considérer qu'on, bon, maintenant qu'elle est passée, on ne reculera pas. Là, il se passe très exactement l'inverse. C'est-à-dire que tant que la loi n'était pas passée, les gens disaient, bon, Macron ira jusqu'au bout. Et maintenant qu'elle est passée, il y a de plus en plus, enfin, sous réserve de l'avis du Conseil constitutionnel, il y a de plus en plus de gens qui disent, on peut revenir. Comment je vois la journée de demain? À l'évidence, la mobilisation sociale sera importante. En ce moment, on voit que les chiffres ne varient pas beaucoup. Il y a entre aux alentours d'un million de manifestants dans la rue depuis maintenant plusieurs mercredis. Ça varie un peu. Jeudi dernier, c'était quand même le record à Paris. 120 000 manifestations à Paris. C'était le record même depuis le début. Alors qu'il y a eu. Alors, est-ce que ça va?
Alors que la huitième journée avait baissé à 450 000.
Hein. Exactement. Beaucoup y ont vu l'effet du 49-3, puisque c'était la première journée après le 49-3. Bon. Moi, je pense pas que ça va baisser. Effectivement, il y aura certainement un peu plus de violence. Et vous avez raison, on va à la fois, ça sera binaire, on va se focaliser sur le nombre de manifestants, sur la contestation.
Et sur les violences.
Voir si elle s'effiloche ou pas. Et sur la violence, pour voir si on reste dans la première cause du conflit ou sur la deuxième. Ce qui est effectivement extrêmement compliqué pour le président de la République maintenant, c'est qu'il y a un mouvement, il y a une réforme très impopulaire et dont l'impopularité ne se dément pas. Il y a maintenant ces violence policière, et on voit un certain nombre de jeunes, j'en ai dans mon entourage, qui étaient contre la réforme des retraites, mais enfin, qui n'étaient pas vent debout, qui maintenant, avec les violences policières, deviennent vent debout. C'est-à-dire que la répression a créé de la contestation sur la contestation. Puis il y a une troisième chose, qui est la détestation d'Emmanuel Macron. Voilà, je pense qu'on parlera de politique un petit peu tout à l'heure. Mais au-delà de sa réforme, au-delà des violences populaires, le pouvoir a à gérer la personnalité de son chef qui vraiment devient extrêmement clivant.
Stéphane Zumsteck, ce que dit Gilles Bornstein, c'est qu'aujourd'hui, la contestation, elle n'est pas tellement nourrie par la réforme des retraites, elle est nourrie par l'autoritarisme qu'incarne ce régime, avec le 49-3, et la détestation d'Emmanuel Macron. C'est le carburant.
Absolument.
Qui pousse, absolument.
Il y a à peu près.
La jeunesse notamment.
La jeunesse notamment qui aura mis du temps quand même à se mobiliser. Hein, on en est à plus de
deux
mois.
La retraite, c'était pas son affaire.
C'était pas son. Ça. Vous savez, il y a encore quelques années, vous demandiez aux jeunes ce qu'ils pensaient de tel ou tel projet de réforme. Pour eux, c'était de la science-fiction. La retraite, c'était dans 30, dans 40 ans. C'était pas un sujet. Aujourd'hui, on le voit bien, c'est un sujet qui a été récupéré, qui a été assimilé aussi par la jeunesse. Pour l'instant, les mouvements de jeunesse, les blocages de lycées ou d'université, il y en a, mais très peu. Ça aussi, si ça se développe, ça pourrait rajouter, non pas au chaos, mais le désordre au désordre et le sentiment que la France est bloquée. Il y a un autre élément également qui milite en faveur du pronostic selon lequel le mouvement va encore durer, c'est qu'il n'y a pas de soupape de sécurité dans les mois à venir. Il n'y a pas de rendez-vous électoral. S'il y avait des élections, les prochaines élections, ce sont les élections européennes dans plus d'un an. S'il y avait des élections dans 3 ou 4 mois, moi je pense qu'il y a toute une partie des Français qui se diraient « Bon, je laisse tomber, je lâche l'affaire, mais vous allez voir aux élections ce que vous allez voir. » Et des élections européennes aujourd'hui, ce serait un désastre pour une liste présidentielle. À partir du moment où vous n'avez pas cette soupape de sécurité, ce rendez-vous où vous allez sanctionner le gouvernement, eh bien, vous trouvez plus d'écho à un combat dans la rue, à un combat démocratique ou un combat violent selon les cas et selon tout ce qu'on a évoqué là. Et ça, c'est un vrai problème aussi. C'est que qu'est-ce qu'on fait pour sanctionner Emmanuel Macron quand on est résolument hostile au projet de réforme? Bien, on soutient un mouvement, puisque vous n'avez pas d'échappatoire électoral.
Driss Aitoussef, demain, c'est la 10e journée de manifeste contre la réforme des retraites. Alors, on s'attend à ce qu'il y ait des jeunes, et on s'attend à ce que le service d'ordre des syndicats pourrait être débordé. Qu'est-ce que ça change, d'abord, l'arrivée des jeunes et le service d'ordre?
L'arrivée des jeunes, je pense que c'est quand même une donnée importante. D'abord, à les politiques, c'est-à-dire qu'on se souvient, les jeunes qui avaient globalement plutôt bien soutenu Macron en 2017... un peu moins en 2022 et pas du tout aujourd'hui. Donc on voit bien qu'effectivement chez les jeunes, Emmanuel Macron, il cristallise finalement cette déception, l'espoir d'une partie de la jeunesse qui avait placé à un président jeune qui était capable de réformer les institutions pour adapter finalement quelles sont les attentes des jeunes qui votent quelquefois pas ou peu et qui sont en attente d'autres espaces de dialogue. Aujourd'hui, ces jeunes qui sont pas forcément dans des cortèges, mais qui se regroupent. On a vu samedi, il y a une semaine, ils étaient 4000 rassemblements un samedi soir. C'est quand même relativement important. Il y a des attroupements ici et là. Ils sont pas dans des régimes de déclaration, mais ils sont là. Et il faut composer avec eux. Et pour un certain nombre d'entre eux, qui estiment que seule la violence peut quelquefois faire aboutir leurs idées, il y a une vraie difficulté pour la puissance publique à prendre en considération ce mouvement jeunesse qui doit pouvoir aussi s'exprimer, doit trouver des espaces de rencontre. voit bien, ils ne vont pas dans des permanences pour discuter avec les élus locaux. Ils fonctionnent très peu. Ils sont peut-être dans des situations où ils sont en situation de mise un peu en... où ils prennent un peu leur indépendance. Et donc, il faut que le gouvernement puisse leur parler. Sur les sujets de la réforme des retraites et Sainte-Soline, ce sont des sujets qui les touchent directement parce que ça touche leur avenir. La réforme des retraites, bah, c'est évidemment eux demain. Et Sainte-Soline, ils considèrent qu'un sujet purement local peut avoir un impact au moment où on réfléchit sur un hiver extrêmement sec et quelle va être finalement la situation de la France et dans le monde dans quelques années. Il se trouve qu'ils sont directement impactés par ces sujets-là sans même y avoir pris part. Et c'est ce qui leur pose une difficulté aujourd'hui.
Gilles Bornstein, Emmanuel Macron est en train de perdre la jeunesse, si on peut dire. Le monde du spectacle a signé, il y a eu 300 acteurs et artistes qui ont signé une tribune contre Emmanuel Macron. Au fond, ça devient le président des retraités et il mise sur l'ordre. Est-ce qu'il a perdu beaucoup de plumes politiques dans cette affaire ?
Énormément, énormément à mon avis. Il a été, et oui, énormément. On sent qu'il est très impopulaire. On sent que le problème, c'est lui.
C'est lui.
Bah, on parle d'Elisabeth Borne, etc. Enfin, personne ne pense qu'Elisabeth Borne est la solution, mais personne ne pense non plus qu'elle est le problème. Voilà, Elisabeth Borne est considérée pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une techno plutôt compétente, qui connaît plutôt les dossiers, qui est assez habile dans le champ syndical, peut-être un peu rigide parfois. Mais bon, tout le monde a conscience que, en tout cas, l'opinion a, sous le contrôle de Stéphane, le sentiment que ça se passe à l'étage au-dessus. Et je pense qu'Emmanuel Macron, qui a dit et répété qu'il avait tout compris, qu'il ne serait plus vertical, qu'il gouvernerait différemment, que les Français, récemment, les Français en ont marre des réformes qui viennent d'en haut. Et la réforme des retraites, elle est venue d'en bas ou elle est venue d'en haut? Elle est venue d'en haut. Elle est venue de lui. Donc Emmanuel Macron, qui gouverne exactement à l'inverse de ce qu'il avait promis de faire, oui, ça commence à être voyant. Ça commence à se voir et il a énormément... Je ne sais pas comment il va renouer. Il lui reste 4 ans, comme disaient les guignols. 4 ans, c'est long. 4 ans, c'est long avec une majorité de 9 voix. Bon courage.
Son image dans l'opinion est érodée et c'est sa personne qui cristallise...
C'est la conjonction de deux choses, son image et son action. Ouais. À un moment donné, il a toujours eu un problème avec son image. Au-delà de l'état de grâce après son élection en 2017, très très vite...
Financial Times disait les Français ont l'impression que c'est leur patron qui les regarde de haut.
Oui, alors ça, c'est l'histoire de France récente politique. On disait ça d'un certain nombre de présidents de la République, mais c'est vrai que lui, on a parlé d'hyper-présidence pour certains, de régime monarchique, mais lui, alors, il arrive à synthétiser tous les traits que l'on pouvait reprocher à un certain nombre de présidents de la République, un certain nombre de monarques. Le problème d'Emmanuel Macron aujourd'hui, bien sûr que son image s'est érodé, c'est que quand il parle, comme il a parlé la semaine dernière, c'est censé être pour apaiser. Plus il parle, plus il énerve. Et ce qui me frappe quand même, c'est qu'à aucun moment, enfin, il ne peut pas s'empêcher d'envoyer des messages de provocation. Lors de son interview télévisée, enfin, il a quand même déploré dès le début l'absence de concertation et de négociation de la part des syndicats qui ne lui avaient rien proposé. En deuxième partie, il a dit « je veux réengager la méthode de concertation », c'est-à-dire exactement ce qu'il avait dit dans le cadre de la campagne électorale pour sa réélection. Quand vous êtes opposé, voire quand vous êtes hostile à Emmanuel Macron et que vous le voyez à la télévision dire ça, vous ne pouvez sortir de cette interview qu'encore plus énervé et encore plus hostile à l'égard de sa personnalité. Surtout, il cristallise effectivement le mécontentement en France et c'est pour ça qu'il est véritablement, on l'a dit ces derniers jours, dans une impasse. Il y a une impasse politique, certes, une impasse parlementaire, mais il y a aussi une impasse personnelle. Comment aujourd'hui retisser le lien avec les Français d'une part, mais aussi avec des organisations syndicales, voire avec une partie des oppositions dites de gouvernement? Je ne vois pas, parce qu'en fait, il multiplie les signes contraires, en fait.
Alors, pour l'instant, Emmanuel Macron a dit qu'il conservait Elisabeth Borne à Matignon. Il lui a demandé d'élargir sa majorité. Elisabeth Borne, qui était l'invitée ce week-end d'Édouard Philippe, qui réunissait au Parc Floral à Vincennes, ses troupes c'était une première depuis la création de son parti Horizon. Et c'est une façon pour Édouard Philippe de rappeler l'importance de ses troupes au sein d'une majorité présidentielle qui a plus besoin que jamais de resserrer les rangs dans un contexte de crise sociale, sujet de Thierry Curtet et Perrine Aubert.
Elisabeth Borne, François Bayrou, invité d'Édouard Philippe. La majorité et ses trois partis s'affichent unis en ces temps difficiles.
Dans des périodes comme celles que nous traversons, les destinées individuelles comptent bien peu. Ce qui compte, c'est notre pays. Je ne renoncerai pas à convaincre. Je ne renoncerai pas à bâtir des compromis, je ne renoncerai pas à agir.
François Bayrou, lui, sait qu'Emmanuel Macron veut élargir sa majorité et il met en garde.
toute perspective d'élargissement est bonne. Mais il n'y aura d'élargissement que si nous sommes forts, nous, si nous sommes capables de nous rassembler d'abord nous-mêmes, avant ou en même temps que nous proposerons à d'autres, j'espère qu'ils existent, de se rassembler avec nous.
Pourtant, Édouard Philippe regarde vers sa droite pour chercher une possible alliance.
On peut dire qu'on est déçu, et c'est vrai qu'on est déçu, par le fait que simplement la moitié du groupe LR se soit senti tenu par des engagements qui avaient été pris. C'est très regrettable. On n'en serait pas là aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'il y a la moitié qui s'est senti tenu.
Édouard Philippe ne cache pas ses ambitions pour 2027. Mais garder une majorité unie jusque-là va s'avérer un tour de force.
Et Gilles Bornstein, est-ce qu'il n'est pas là aussi le problème d'Emmanuel Macron? C'est que dans son entourage, beaucoup pensent à leur carte personnelle. On a vu... Édouard Philippe, François Bayrou aussi, il y pense pour 2027, non ?
Bien sûr. Bah, disons que le procès qui se profile contre lui va certainement calmer ses ardeurs. Mais oui, il y pense, François Bayrou. Il pense que après un président très jeune, il faudra un président plus expérimenté. Voilà, il n'arrête pas de parler
Joe Biden, Biden français.
Le Joe Biden français. Il a un double problème d'entourage, Emmanuel Macron. Ceux qui sont bons pensent à l'élection présidentielle. Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, éventuellement François Bayrou et Édouard Philippe. Et à mon avis, il a un problème plus fondamental qui est le manque d'incarnation au gouvernement. C'est vrai qu'à part ceux-là qui faisaient de la politique avant, Bruno Le Maire n'est pas né à la politique, avec Emmanuel Macron. Le charisme, ceux qui ont une capacité d'incarner quelque chose, d'incarner des politiques publiques, c'est zéro. Il y a deux priorités du gouvernement, c'est l'éducation et la santé. Vous allez sortir dans la rue et demander aux gens qui est ministre de la Santé ou qui est ministre de l'Éducation. Mais personne ne le sait. Monsieur Braun et Papendiaï ont certainement d'immenses qualités. Mais enfin, voilà, la politique, c'est un métier et ils n'arrivent pas à incarner.
Et Elisabeth Borne, vous la rangez dans le même sac ?
Oui, Elisabeth Borne, c'est compliqué parce qu'Elisabeth Borne, voilà, on la juge assez bien et pour ses défauts et pour ses qualités. C'est-à-dire que quand elle a été nommée, personne n'a dit que c'était un nouveau génie politique. Enfin, voilà, elle était nommée comme une espèce de techno, une super directrice de cabinet parce que ce profil à cette réforme, elle a échoué parce qu'elle était capable, elle a été patronne de, elle avait été ministre du Travail, patronne de la RATP, capable de trouver les lignes de fracture dans un conflit social pour essayer de trouver. Mais, je veux dire, il n'y a pas d'immense déception sur Elisabeth Borne, vu que personne ne pensait que c'était le leader ou la leader Massimo des prochaines années. En revanche, un ministre très important récemment me disait voilà, les priorités politiques ne sont pas incarnées. Pendant la crise du Covid, on aime ou on n'aime pas Bruno Le Maire. Pendant la crise du Covid, il a incarné le quoi qu'il en coûte. Les gens savent qui a essayé de sauver l'économie française. Aujourd'hui, dans les 5 ou 6 priorités, Christophe Béchu a du mal à incarner l'écologie dont le président de la République a dit que ça devait être aussi
la grande affaire de son quinquennat.
Donc il y a, comme toujours depuis le début, à l'exception des premiers ministres où il a plutôt réussi son coup, Édouard Philippe, personne ne le connaissait, c'était réussi. Jean Castex, personne ne le connaissait, c'est à peu près réussi. On verra ce qu'il en est d'Elisabeth Borne. Mais pour les gros ministères, il y a un problème de relations humaines important. Dans la Macronie. Je voudrais dire un dernier mot, parce que tout à l'heure, j'ai dit qu'il était mal. Il est mal, Emmanuel Macron. Il ne faut pas oublier sa capacité de résilience énorme. Après les Gilets jaunes, vous vous rappelez l'épisode du Puy, où il avait pris des œufs, après les Gilets jaunes, il y a un moment où Emmanuel Macron ne pouvait plus sortir de l'Élysée. 2 ans après, il a été le seul président de la République hors période de cohabitation réélu. Alors, voilà. Il ne faut quand même pas oublier que jusqu'à présent, il a fait preuve d'une forte capacité de résilience.
Alors, Stéphane Zumsteg, on parle comme ça d'un coup pour reprendre la main. Alors, ça pourrait être changer de Premier ministre, mais avec qui? Faire une alliance avec la droite? On entendait Édouard Philippe regretter que les LR ne soient pas plus fiables, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à essayer de tisser de ce côté-là? On a entendu Rachida Dati, qui avait l'air de faire des offres de service.
Alors, changer de Premier ministre tout de suite, c'est-à-dire virer Elisabeth Borne, ça me paraissait très compliqué. Ça aurait été un aveu de fébrilité et de faiblesse. Ça ne ressemble pas à Emmanuel Macron, président de la République. J'imagine, je suppose qu'il a dans l'idée de changer de Premier ministre à un moment donné, mais il ne pouvait pas le faire, selon moi, en tout cas, à très très court terme, après le vote de la motion de censure, même si elle a échoué. Après, sur un changement, je note ce que disait Gilles est important. C'est quoi les héritiers présomptifs ou ceux qui incarnent quelque chose au gouvernement? Le maire, Darmanin, Édouard Philippe qui n'est plus au gouvernement, c'est-à-dire que des gens de droite.
Ouais.
Il n'y a plus personne à gauche. Alors certes, Élisabeth Borne vient de la gauche, vient du centre-gauche, mais on ne peut pas dire qu'elle est l'image aujourd'hui de quelqu'un qui a été à un moment donné à gauche. Voilà, c'est le Premier ministre du Président de la République, point. C'est une collaboratrice, pour reprendre le terme qu'on avait employé sous Jacques Chirac.
Une inflexion. Sous
Nicolas Sarkozy, pardon. En parlant de François
Fillon,
exactement. Maintenant, se tourner encore davantage vers la droite, oui, mais il faut maintenant, on va voir ce que va faire la droite. Qu'est-ce que se disent les Républicains depuis le début ? Le macronisme est une parenthèse dans l'histoire politique de la Ve République, et à un moment donné, après Emmanuel Macron, les choses redeviendront dans l'ordre, il y aura une gauche, il y aura une droite, il y aura toujours évidemment une extrême droite. Je ne vois pas, dans le contexte actuel, compte tenu de ce que Éric Ciotti a vécu en termes d'humiliation, avec 19 députés sur 61 qui votent la censure, avec un président DLR fraîchement élu et assez brillamment, élu de façon indiscutable à la présidence DLR, s'allier avec le gouvernement maintenant, ce serait une dilution quelque part c'est peut-être le choix qu'ils feront, mais selon moi, ce serait une dilution de l'originalité, en supposant qu'il reste une originalité chez les Républicains, et ça serait faire le jeu du Rassemblement national. La droite parlementaire, à mon avis, la droite classique de gouvernement parlementaire, serait broyée par le Rassemblement national sur sa droite et par ce bloc présidentiel un petit peu bizarre et qui penche de plus en plus à droite, parce que il est où le macronisme de gauche de 2017 ? Je vous rappelle qu'en 2017, il y a plus de gens de gauche que de gens de droite qui votent pour Emmanuel Macron, que ce soit au premier ou au second tour. Ça reste un candidat quand même de centre-gauche. Tous ces gens-là sont partis vers la NUPES, il n'y a plus personne.
Est-ce qu'il n'y a pas un électorat à récupérer pour la droite, sachant qu'Emmanuel Macron ne pourra pas se représenter ? Moi, je me dis, je serai de droite, je dirais, je fais alliance avec lui. De toute façon, il ne pourra pas se représenter en 2017.
Mais tout dépendra du candidat macroniste désigné. Parce que, est-ce que Bruno Le Maire, Darmanin, Édouard Philippe, eux aussi ont la capacité de récupérer, ou plus exactement de conserver cet électorat de droite ou de centre-droit qui a basculé, il y a maintenant bien longtemps, dès 2017. C'est ça le problème. Ils n'auront pas face à eux un candidat ex-macroniste venant du PS, non, ce sera forcément des gens qui viennent
de la droite. Le macronisme, c'est bien droitisé, c'est ce que vous nous dites.
Mais, oui, mais alors ça, c'est qu'il y ait des renoncements dans la vie politique, le programme commun de François Mitterrand, tout ça, on est habitué à ça, les renoncements de François Hollande. Là, ce qui est inédit avec le macronisme, c'est pas un renoncement, c'est pas un changement de politique, ça arrive à chaque fois. Vous êtes élu sur un programme et vous faites l'inverse. Là, il y a eu une substitution d'électorat depuis 2017, et ça n'arrive pas souvent. C'est-à-dire que vous avez été élu par une certaine partie de la population, par un électorat plutôt de centre-gauche et un peu de centre-droit, les déçus du fillonisme à cause de l'affaire Fillon, mais vous avez changé d'électorat. Il y a eu une sorte de mue, vous avez changé de peau. C'est ça qui est inédit et assez fabuleux, parce qu'il faut réussir le coup quand même pour Emmanuel Macron, avoir changé. C'est plus les mêmes. Il ne gouverne plus avec les mêmes Français. Ça n'arrive pas en général.
Alors sur Emmanuel Macron, je pense qu'il y a un problème, c'est vrai, de fond et de forme. Pour évacuer tout de suite la forme, je pense qu'il a voulu, et Édouard Philippe, c'est vraiment une parenthèse dans sa vie politique, c'est-à-dire qu'au fait, il n'a pas voulu un Édouard Philippe qui se politise. Et in fine, quand les choses se sont compliquées entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, quand Édouard Philippe, inévitable, il s'est politisé. Et donc, Emmanuel Macron a toujours considéré ce dont Sarkozy avait théorisé. Le Premier ministre, c'est un peu comme un collaborateur. C'est ce qu'avait dit Nicolas Sarkozy d'Édouard Fillon. Aujourd'hui, on est un peu dans cette logique. Ouais. François Fillon. Et donc, aujourd'hui, on est un peu dans cette logique. C'est-à-dire que quand on prend Élisabeth Borne, c'est une parfaite technocratique qui bosse très très bien, qui est plutôt de gauche et qui fait bien le job. Et aujourd'hui, ce qui le met en difficulté, c'est cette propension à se mettre en avant. Et ça, sur la méthode, la Ve République a prévu effectivement un Premier ministre qui sert de fusil au président de la République pour le protéger. Ça, c'est sur la forme. Ensuite, sur le fond, moi, je suis quand même assez partagé, parce que quand on voit à la fois le MoDem, Bayrou et Édouard Philippe, essayer de revendiquer une ouverture vers la droite, ça c'est bon pour Édouard Philippe, c'est pas forcément bon pour le président du MoDem. Pourquoi ? Parce que Édouard Philippe a un intérêt dans la perspective 2027 d'avoir effectivement une majorité qui va s'élargir. Mais si vous faites rentrer Éric Ciotti, je peux vous assurer que je pense que Édouard Philippe, François Bayrou va pas être content, et puis on a y compris autour d'Emmanuel Macron, ils sont peut-être pas très présents dans le gouvernement, mais un petit chouïa, vous avez encore cette aile gauche. Aurore Berger, vous avez
Stéphane... Berger, elle vient des...
Oui, mais elle a plutôt aujourd'hui une sensibilité de gauche. Vous prenez Gabriel Attal, Stéphane Séjourné, qui aujourd'hui...
Il pourrait les perdre.
Mais bien sûr qu'il pourrait les perdre. Donc, il va en gagner d'un côté et en perdre de l'autre. Il faut qu'il fasse un petit peu avec cette équation-là.
Alors, vous parliez tout à l'heure, Stéphane Zumsteig, de ces 19 députés LR qui ont voté la motion de censure. Je vous propose d'écouter un reportage sur l'un d'eux. C'est Maxime Minot, député LR de l'Oise, qui, lui, a cette particularité, c'est qu'il a voté les deux motions de censure, hein, celle du centre et celle du Rassemblement national. Ben, vous allez le voir, ses électeurs dans sa circonscription le remercient et lui en sont gré. Reportage de Caroline Motte, Jeanne Assouli et Xavier Roman.
Nous sommes ici à Clermont, dans l'Oise, une commune de 10 000 habitants. Le député de cette circonscription, c'est lui, Maxime Minot. Lundi dernier, cet élu LR montrait fièrement son bulletin de vote pour la motion de censure du gouvernement. Une prise de position approuvée aujourd'hui par certains de ses administrés.
Il a été courageux, il a été contre son parti, contre l'avis de son parti. On le remercie de soutenir ses concitoyens et on le sent proche de nous et ça nous fait plaisir, vraiment.
On l'a élu pour ça, pour qu'il nous écoute, pour qu'il écoute le peuple, ce que n'a pas fait la majorité des LR.
Maxime Minot, Gilles Bernstein, qui a voté hein, la motion de censure du Rassemblement national, ce qui lui vaudra de ne pas avoir de concurrent Rassemblement national pour les prochaines législatives. C'est Jordan Bardella qui dit chez LR, il y a ceux qui pensent comme Macron et ceux qui pensent comme Le Pen.
Alors pour la promesse de ne pas avoir de candidat, je pense que ça ne tenait de la part de Jordan Bardella qu'en cas de motion de censure votée et de dissolution immédiate. Dans 3 ans, quand il y aura des législatives, on en parlera. Je pense que tout le monde aura oublié.
Oui,
et je serai Maxime Minot. Je ferai attention quand même au candidat Rassemblement National. Si la circonscription est récupérable, je ne pense pas que le Rassemblement National se gênera. Ben oui, on a dit, c'est ce que dit Jordan Bardella et ce qu'on pense tous, c'est-à-dire que le petit croupion qu'il reste, le LR croupion qu'il reste, c'est-à-dire ça a fait quoi, 6% des voix à la présidentielle.
4,75.
On a vu hier qu'en cas de législative, dans un sondage de vos concurrents, c'était aux alentours de 10%. Eh bien, il y a là-dedans des gens qui sont plutôt attirés vers Marine Le Pen, plutôt vers une droite à la fois dure sur le régalien et peut-être plus sociale que ne peut l'être Éric Ciotti sur l'économie, et une droite attirée par le libéralisme dans tous les sens du terme d'Emmanuel Macron. C'est l'éternel problème des LR depuis l'élection d'Emmanuel Macron. Je note que Laurent Wauquiez, dont on dit que c'est lui qui récupérera la mise à un moment donné pour les Républicains. Laurent Wauquiez, qui était très favorable à une droite de droite, c'est-à-dire qui pensait qu'il fallait qu'il se refasse des parts de marché sur Marine Le Pen, on a le sentiment qu'il est un peu en train de changer d'avis parce qu'il voit que dans ses deux adversaires, celle qui...
Ce fameux sondage, on voit qu'il y a deux partis qui ont perdu des plumes avec cette séquence. Le parti Renaissance, 5 points de moins par rapport aux législatives de l'an dernier, et LR, 1 point de moins. Et à l'inverse, le RN est le grand vainqueur avec 7 points de plus si les législatives devaient avoir lieu demain.
Exactement. Et il me semble... Je peux me tromper, mais il me semble que Laurent Wauquiez se dit aujourd'hui que ça va être compliqué d'aller récupérer des parts de marché chez Marine Le Pen, et que celui qui est très affaibli, c'est Emmanuel Macron, et qu'il réopérerait un virage à gauche, c'est un petit peu, je voudrais pas être désagréable vis-à-vis de Laurent Wauquiez, mais qu'il se recentrerait un peu en se disant, oui, finalement, il y a une telle déception du macronisme, peut-être y compris... Stéphane nous le dira, peut-être y compris vis-à-vis de cette droite libérale qui était allée chez Macron et avec laquelle il gouverne maintenant, que la droite va se dire, bon ben voilà, c'est peut-être chez elle qu'on doit récupérer parce que chez Marine Le Pen, elle est trop forte aujourd'hui pour qu'on puisse faire quelque chose.
Alors, Jordan Bardella était l'invité de l'émission L'Événement, dont vous êtes le rédacteur en chef et présenté par Caroline Roux jeudi dernier. Il a très tranquillement expliqué que les prochains au pouvoir en 2027, ce seraient eux. On l'écoute.
Comment cela va se terminer ? Je pense que cela va se terminer par notre arrivée au pouvoir. Je la crois nécessaire. Je pense que nous sommes aujourd'hui la seule alternance.
Donc avec un essoufflement du,
par le gouvernement.
Du mouvement social.
Et je
social.
Veux dire aux Français que, en fait, le plus beau des contre-pouvoirs, peut-être le plus fort et le plus puissant, c'est le bulletin de vote.
Stéphane Zumsteg, alors 4 ans c'est long, hein, mais pour l'instant, oui, le RN paraît comme le grand vainqueur de cette séquence.
Oui, le grand vainqueur d'une séquence qui ne dure que depuis 2 mois. Il faudra voir ça sur le long terme. Mais c'est vrai que j'écoutais Jordan Bardella. Ce qui est fabuleux avec le RN, c'est que moins il en dit, moins il en fait, et plus il progresse. C'est quand même... maintenant, quand vous voulez progresser dans l'opinion, dans l'électorat, et en termes de performance électorale lors des élections, il faut proposer quelque chose. Enfin, je reviens juste sur la période de la campagne pour les élections législatives au mois de juin dernier. Rappelez-vous ce qu'on disait. Marine Le Pen a été battue sèchement pour une 3e fois. Elle disait elle-même... A priori, je vais passer à autre chose, sauf circonstances exceptionnelles. Tout le monde disait, on n'entend pas le RN durant cette campagne. Ça veut dire qu'ils ont décidé d'enjamber ça, ils passeront à autre chose et ils reconstruiront. Oui, résultat, 89 députés. Hein, le maximum, c'était 35 en 1986. Ils ont triplé leur record.
À la proportionnelle.
À la proportionnelle, de surcroît. Tout à fait. 89 députés en n'ayant pas fait campagne. Là, le RN n'a pas été inaudible dans ces deux derniers mois, mais enfin, a quand même été particulièrement discret et sans rapport avec ce qu'ont pu dire les députés de gauche. Et on le voit dans l'opinion, il progresse, notamment, même si on n'a pas de détails, vous évoquiez cette enquête, mais qui est très intéressante, où il progresse dans les zones rurales, là où il y a beaucoup de milieux populaires. C'est pour ça que je reboucle avec ce qu'on disait sur la droite tout à l'heure. Il y a deux LR aujourd'hui, deux types de députés, ceux qui ont été élus dans des circonscriptions populaires. On voyait notamment
Maxime Minot,
et il y en a d'autres, parce que eux, leur opposant, leur principal concurrent pour les prochaines élections, c'est le RN, c'est pas la gauche et c'est pas le macronisme. Ce sont dans toutes ces circonscriptions où ils ont progressé, dans l'immense majorité de ces 89 circonscriptions, où en fait les gens passent à autre chose, en fait. Et ils ne veulent plus de la gauche, ne veulent plus du macronisme et ne veulent pas spécialement des LR qui sont trop, tous ces partis étant à leurs yeux trop embourgeoisés, en fait.
Voilà, c'est dire les multiples conséquences qu'il y a avec cette contestation contre la réforme des retraites. Merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Vous restez sur France Info, qui sera mobilisée aujourd'hui et demain, bien sûr, pour suivre la 10e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. Bonne journée et à demain pour une nouvelle émission.